territoire à partir de décret. Le contenu de la Bible a été dénaturé et a été présenté à l'humanité tout entière comme une parmi les sagesses à la manière grecque, alors qu'originellement il s'agissait de la révélation de l'extérieur de la conscience humaine captée en Israël, parce que c'est en Israël que les conditions de réception étaient les plus importantes. Si vous voulez, il y a la manière d'être en Israël rend possible la compréhension de ce que Dieu veut dire lorsqu'il parle de la loi morale. Alors que la manière d'être en Israël a été cohérentement la plus authentique dans le déroulement de l'histoire pour que la science des phénomènes impersonnels puisse commencer. Il est très facile à un juif d'être un grec, mais il n'est pas du tout facile à un grec d'être un juif. Voilà finalement le fond du problème. Je crois d'ailleurs que lorsque Saint Paul, en fondant la théologie chrétienne, dit très exactement dans les évangiles, ni juif, ni grec, il savait très exactement de quoi il voulait parler. Ben, il a fondé une identité nouvelle, ni juif, ni grec, il ajoute aussi, comme vous le savez, ni homme, ni femme. Au fond, notre réponse est que tant qu'il y a des hommes et des femmes, il y a aussi des juifs et des grecs.
À l'ouvrage principal qui traite de ces choses et qui est le livre de Benoît.
Mosaïque, Israël et l'humanité. Voilà ce sujet. Il n'est pas nécessaire, selon la tradition juive, que les hommes deviennent juifs pour accéder à la moralité. Ce qui est, c'est toute une stratégie qui a été pensée par Israël. Il est nécessaire que les hommes se renseignent auprès d'Israël quant à la nature de cette moralité. Et ensuite, il y a un choix à l'échelle individuelle. Ceux qui, du point de vue de leur histoire individuelle, veulent rejoindre Israël, Bruchim Abalim, Baruch Haba, des portes sont ouvertes à travers les siècles et les millénaires, beaucoup d'hommes qui ont entendu cette bonne nouvelle que la moralité est possible, qu'il y a une société humaine où on sait résoudre les problèmes moraux et on rejoint Israël. Mais il n'est pas nécessaire que ça arrive cela. Il suffit que l'humanité accepte de s'inspirer de la morale d'Israël, chaque société dans son équation personnelle. Il peut y avoir différentes légalités inspirées de la même Torah suivant les sociétés considérées. C'est un peu ce que la tradition sous-entend en disant qu'il y a 70 visages à la Torah. Il y a un visage de la Torah qui correspond à chacune des 70 nations. Mais il n'est pas nécessaire, encore une fois, que les membres des nations soient juifs, mais que leurs inspirateurs, que leur cadre, vous voulez, spirituel et moraux, le soit. C'est ce que la Torah annonce en disant Israël, ma mère, pour nous, mais vous êtes heureux. C'est-à-dire que Israël est destiné à être un peuple assez spécial, un peuple qui révèle la loi morale aux autres nations. Tout ceci est empêché encore une fois par le phénomène connu sous le nom de antisémitisme et en son narrateur contemporain d'antisionisme. Bien. On a mis un point bien précis qui est le fait que une sorte de mutation de la raison humaine a eu lieu en Grèce et a fondé la science. Ce ne sont pas les civilisations chinoises ou indiennes qui ont fondé la science. C'est la civilisation blanche européenne en Grèce. Alors, c'est un état de fait dont il faut tenir compte. Voilà. Ensuite, n'importe quel homme de ces sociétés peut apprendre la science chez les Grecs, enfin, n'importe quel homme peut apprendre dans les universités européennes ou de type européen à apprendre les principes de la science. Mais c'est le génie de la Grèce, donc de l'homme blanc d'Europe, qui a fondé la science expérimentale. En fait, je pense que c'est bien clair. C'est dans aucune autre société que ce phénomène est apparu. C'est donc qu'il y a une identité humaine qui était compatible avec le projet de fonder la science, avec la partie dans la civilisation blanche. Il ne faut pas avoir des complexes d'infériorité à ce sujet. Et je voudrais être bien clair, je crois personnellement, quoique tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, je crois personnellement que n'importe quel homme dans le monde peut devenir agrégé de mathématiques. Mais enfin, les premiers mathématiciens, c'était les Grecs. Voilà, c'est votre question est assez délicate. Je vais essayer de répondre. Je vais la poser. Et on va demander si, lorsque les Juifs se consacrent à la vocation scientifique, ils s'écartent de leur vocation propre. Je voudrais dire ceci. Nous sommes des monothéistes stricts, des monothéistes absolus. En ce sens que c'est le même Dieu qui a fait le monde de l'impersonnel, donc le monde des lois de la nature, et qui révèle la loi morale. Est-ce que vous comprenez? Par conséquent, il y a deux tâches à réussir. La tâche qui consiste à faire la science, c'est-à-dire de maîtriser la nature, et la tâche qui consiste à promouvoir la moralité, c'est-à-dire de faire réussir l'histoire de l'homme dans la nature. Alors, que se passe aussi? Il y a une division du travail. Les sagesses du monde extérieur ont été développées, et c'est les Grecs qui avaient, qui en ont, si vous voulez, les premiers résolus à ce problème de la population des Grecs. Et il y a d'autre part les tâches de la Torah. Et par conséquent, la première réponse la plus logique, la plus cohérente, consisterait à dire laissons les Grecs, c'est-à-dire les hommes, faire la science, nous, notre action est celle de la Torah. Mais voilà, nous sommes des monothéistes. Je veux dire qu'il y a les deux tâches à résoudre. Et par conséquent, la tâche centrale d'Israël, c'est de promouvoir la loi morale, de l'enseigner aux nations, mais il y a aussi le problème de la science à résoudre. Et lorsque les Juifs donnent un coup de main à l'humanité pour ça, c'est très important. J'ai dit tout à l'heure que c'est produit très exactement au 4e siècle avant l'ère actuelle, un phénomène extrêmement important. La révélation cesse en Israël, et j'ai ajouté immédiatement, c'est que ça signifie donc qu'elle cesse partout. Alors je reviens sur ce point. Nous avons par exemple un usage dans le Talmud qui dit ceci. loi sur le Sinaï, il l'a formulée simultanément en hébreu pour Israël, dans la Shemakodesh, dans le langage de la sainteté pour Israël, et dans les langues des 70 nations pour les 70 nations. Ce qui signifie que si la révélation a lieu, elle est universelle, que chaque nation pouvait capter. Que s'est-il produit? Eh bien, chaque nation a son équation personnelle et elle a capté cette émission de sagesse à l'intérieur de son équation personnelle. Le phénomène exceptionnel d'Israël, c'est qu'Israël n'a pas d'équation personnelle. C'est situé dans ce postulat de base. L'identité d'Israël coïncide d'emblée avec le projet de l'identité humaine dans l'ordre du Créateur. Il ne s'agit pas de racisme, hein, mais de génétique. Le Créateur a fabriqué les hommes. Et parmi les lignées humaines, il y a une lignée qui reste plus fidèle au projet du Créateur. Alors elle n'a pas d'équation personnelle déformante. Lorsque Dieu parle à Israël, Israël entend ce que Dieu dit. Lorsque Dieu parle aux Grecs, les Grecs entendent ce que les Grecs disent. Et voilà, c'est la fatigue qu'il faut habituer. C'est par exemple l'expression biblique « prophète de mensonge » de Guillaume Schaeffer. Voilà. Prophète de mensonge. Prophète vraiment et de mensonge aussi. Prophète vraiment, mais impur. Il y a sa lettre, mais impur. Par conséquent, les mythes avaient un sens. Et les Grecs, au temps de la révélation, comprenaient leur mythe. Seulement, c'est un sens qui passe à travers la psyché grecque, la psychique grecque, les croissants personnels grecs de la même manière, de la mythologie, de la hindoue, chinoise, etc. Et bien, vous voyez, ce miracle d'Israël, c'est que Israël n'a pas d'équation personnelle. Dans le langage, il coïncide avec l'identité humaine ultime. Dans le langage du Drache, on dit qu'Israël n'a pas de sabre. Chaque nation a un princesse qui est le reflet du visage de Dieu pour elle, eh bien Israël n'a pas de ça, Israël n'a pas de prix, n'a pas d'équation défigurante de Dieu, c'est Dieu lui-même, dit le Midrash, qui s'occupe d'Israël. Donc, que signifie ce Midrash? Et très exactement cela, c'est que tout se passe aussi, Israël est une matrice qui s'élabore l'identité humaine à l'échelle universelle, alors que chaque nation est une manière d'être homme bien particulière. Chacun avec son génie, mais par conséquent, chacun avec sa figure, c'est-à-dire avec sa défigure. Le Zohar l'explique de la manière suivante. Lorsque la dispersion de l'humanité a donné les différentes nations, tout se passe comme si le miroir où Dieu se regardait est tombé à terre et s'est brisé. Alors le miroir est brisé, et l'image de Dieu dans ce miroir est brisée en autant des figures qu'il y a. Vous voyez, cette catégorie biblique, Israël et Elohim, est une catégorie qu'il faut prendre au sérieux pour comprendre ce que la Bible dit. C'est la différence de relation entre le Créateur d'Israël en particulier et d'autre part avec les nations. Alors, bien évidemment, les Grecs ont compris à leur manière les desseins du Créateur pour l'identité humaine. Ils l'ont fait passer à travers le psychisme grec et ainsi pour les différentes sociétés. Bien, je conclurai pour lui. Dans le sujet particulier de ce soir, l'égalité et moralité, on trouve cette citation dans la Gemara de Bava Batra, à la page 10b, et c'est une étude très minutieuse d'ailleurs, nous n'avons jamais la possibilité, avec un aussi grand nombre de faire une étude publique directe, mais je voudrais vous schématiser le principe de cet enseignement, qui est permis d'étudier un verset des proverbes du roi Salomon. Le verset en question se dit en hébreu de la manière suivante. C'est la carte de Romain Ngoy, le chesed de l'unim hatam. Ce qui signifie, un verset des proverbes, c'est la carte, la justice de Romain Ngoy élève une nation, quelle qu'elle soit. Le chesed de l'unim hatam, alors là c'est assez difficile à traduire, parce que chacun de ces termes a différents sens, mais je vous donne immédiatement la lecture du Talmud, et la charité chez les nations n'est qu'un sacrifice d'expiation. Le Midrash utilise la première fois. C'est la création de Mengoy, la justice élève la nation, c'est-à-dire qu'une nation, une véritable société humaine qui mérite le nom de nation, se définit par rapport à la moralité. Alors, lorsque la moralité, la justice, c'est la carte, est réalisée dans une nation, alors cette nation est authentifiée. Une nation ne peut s'authentifier dans l'identité, au niveau de l'identité humaine, que par la réalisation de la justice. Et puis, deuxième partie du verset, Et la charité que font les peuples, c'est une faute. Hatagamore signifie une faute, et peut signifier un sacrifice d'expiation. Voici l'explication du Talmud. C'est la Kateromongore, la justice et la réclamation, là il s'agit d'Israël, puisque un verset de la Bible nous dit Umi Karamecha Israël, Goé Hadbare. C'est-à-dire qu'il y a une seule nation qui mérite le nom de Goé, c'est le paradoxe de l'humour de la c'est Israël. Pourquoi? Parce que c'est la seule nation qui a accepté la justice comme l'égalité. C'est la seule nation qui a accepté la moralité comme l'égalité, alors elle est vraiment une nation. Et puis, chez les autres peuples, la charité est un crime. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce que lorsque la charité est basée sur la justice, alors c'est vraiment la charité. Mais si une nation a refusé le principe de la justice, la charité ne peut être une prime à la justice. Et on peut étudier différentes manières d'être une faute pour une charité de ce genre. C'est-à-dire, lorsque la moralité de la justice stricte n'est pas assurée dans la nation, toutes les vertus morales, essentiellement la charité qui est la clé de toutes les vertus morales elles-mêmes deviennent des crimes. À moins de considérer que la charité n'est pas.
Et le thème général, a été intitulé La fonction rédemptrice du légalisme. Nous reprenons donc les analyses d'hier soir. Il y a une option massive et irréversible de la part de la conscience hébraïque qui voit dans la moralité, dans le problème moral, le sens de la destinée humaine et par conséquent le sens de l'histoire. Nous aurons à revenir d'ailleurs sur la finalité de la moralité, mais il était donc inévitable pour une tradition, pour une doctrine qui considère que le sens de l'histoire humaine est la réalisation des valeurs morales, de ménager une sorte de fonction de rattrapage, de fonction de récupération pour les hommes qui ne seraient pas d'emblée à la hauteur des valeurs morales telles qu'elles sont révélées dans la révélation du Sinaï. Je veux dire, et je suis déjà en plein dans l'enseignement du Shla, il était inévitable que nous trouvions deux niveaux dans la révélation de la loi au Sinaï, le niveau en quelque sorte plus supérieur, celui qui décrit l'identité humaine réussie et que traditionnellement nous nommons les 10 commandements, que en français, enfin, à cette époque. Les 10 commandements sont une sorte de description de la charte d'identité de l'histoire humaine réussie. Et l'homme qui coïncide avec cette identité morale ainsi décrite et ainsi révélée se nomme Israël. Mais, comme nous l'avons vu déjà aussi hier soir, il est bien évident que nous sommes vivants dans l'histoire concrète et au niveau de la vie quotidienne, il y a une distance considérable parfois entre la bonne volonté qui vise les valeurs morales au niveau suprême, telles qu'elles ont été révélées dans cette description du Sinaï, et d'autre part, le niveau de la vie quotidienne, ce que l'on nomme en général la morale pratique, où il faut que l'homme qui est aux prises avec chaque cas concret de l'insertion des valeurs morales dans la vie réelle, dans la vie matérielle, puisse trouver une fonction récupératrice. Alors il semble que c'est cela à l'origine de ce qui est désigné dans la tradition juive sous le terme de légalisme. Le légalisme, c'est un mot, c'est une notion qui a été utilisée dans la polémique anti-juive. C'est-à-dire qu'on a accusé la doctrine des pharisiens, qui, comme vous le savez, les pharisiens sont les rabbins du Talmud, les héritiers de, j'allais dire, de l'Ancien Testament, comme disent les chrétiens, enfin, les héritiers de la Bible hébraïque, qui continuent à considérer qu'il ne peut y avoir de solution au problème de l'homme, dans le sens de la destinée de l'histoire humaine, que dans la mesure où la loi morale absolue se trouvait intégrée et réalisée dans la vie terrestre, comme nous disons en général. Le légalisme, c'est donc le niveau où les valeurs révélées au Sinaï sous forme de mitzvot, c'est-à-dire de projets généraux de la volonté du Créateur, doivent être confrontés avec le détail de la vie quotidienne, et au niveau du légalisme, il y a bien évidemment toute une casuistique des cas précis. Mais plus particulièrement, du point de vue de la tradition juive, et ça c'est l'aspect positif du légalisme, c'est la dimension de l'échec qui apparaît. C'est-à-dire, si il y a de la part de l'homme un échec par rapport à la grandeur de la loi, eh bien, comment récupérer du point de vue du salut l'homme de l'échec par rapport à la grandeur de la loi? Voici à peu près, si vous voulez, comment va se poser le problème qui se pose. Alors, nous allons immédiatement entrer dans la position du problème exégétique, cette fois, comment, dans le texte de la Torah, apparaît cette fonction de légalisme en tant que fonction de récupération, en tant que fonction rédemptrice. Voici donc pour la description du problème, et nous allons immédiatement nous renseigner auprès du texte lui-même comment la question a été posée. Nous allons voir plus particulièrement un enseignement de Rashi qui cite le Midrash, et je vais analyser la manière classique d'approcher cet enseignement de Rashi, et ensuite nous réfléchirons sur la manière dont le Shla, en s'inspirant de la Kabbalah, du Zohar plus particulièrement, a repris le problème. Voici donc, en tout cas pour la description des deux mots du problème, il y a une loi révélée à l'humanité à travers Israël, mais il faut bien s'attendre que d'emblée cette loi sera révélée au niveau le plus haut. Effectivement, lorsque nous reviendrons sur la description des 10 commandements, nous nous apercevrons que, en même temps que loi, en même temps que charte, et en même temps que contrat au niveau des valeurs, ces 10 commandements qui récapitulent toute la Torah nous apparaissent comme une carte d'identité, je veux dire une description de l'identité dite Israël. Par conséquent, c'est l'homme de la fin des temps qui est décrit dans la révélation du Sinaï. Je veux dire, d'une autre manière, on peut considérer que d'emblée, la révélation de la loi, de l'évangile lui-même, est d'intention messianique. Et en effet, nous verrons, je reviendrai sur ce point tout à l'heure, nous verrons que la loi n'emploie pas l'impératif pour formuler les commandements. Alors qu'on s'attendrait dans une mentalité légaliste, dans une mentalité juridique, on s'attendrait à ce que la loi soit formulée à l'impératif, on s'aperçoit qu'elle est formulée en réalité au futur. Prenons un exemple simple sur lequel nous revenons souvent, disons l'interdiction du meurtre. Eh bien, voici quelle est la formule dans les 10 commandements, l'otirtsakh. L'otirtsakh, nous traduisons, ne tue pas. Mais littéralement en hébreu, ça veut dire tu ne tueras pas. Alors, bien entendu, les grammairiens nous diront, avec raison, que l'hébreu a l'habitude d'employer le futur pour dire l'impératif. Mais cette habitude vient de la familiarité avec le texte, où c'est l'impératif qui est employé, où c'est le futur qui est employé à la place de l'impératif. Je veux dire que dans la racine même de la formulation de la loi, c'est intentionnellement que le futur est choisi, sauf un certain nombre d'exceptions qui s'expliquent chacune dans son contexte, hein, et tout se passe comme si la loi est en même temps une promesse. La loi s'adresse à Israël, c'est donc qu'elle considère qu'Israël est compatible à la loi. Et dans le seul fait de s'adresser à Israël comme loi, il est impliqué la promesse qu'Israël pourra être Israël. Est-ce que c'est bien clair, hein? C'est-à-dire, si Dieu donne ses commandements à Israël, c'est qu'il considère qu'Israël est capable de les assumer, de les réaliser. Et vous voyez comment, inévitablement, nous retrouvons notre catégorie très générale, qui est un des fondements de l'enseignement du Rav Kook. Il faut bien comprendre tous ces problèmes à deux niveaux simultanément, au niveau de l'identité collective et au niveau de l'identité individuelle. Je veux dire, nous sommes assurés d'emblée, par le seul fait que la Torah a été donnée à Israël, qu'Israël est capable de la Torah à l'échelle collective. À l'échelle collective, Israël est un juste parfait. C'est ce que dit la Mishnah, Ve'amir Kulam Tzadikim. Le Rav Kook revient très souvent dans son enseignement sur ce point. Il faut d'abord découvrir que le sort de la moralité est attaché à une certaine manière d'être homme. Cette manière d'être homme, c'est le juste parfait, la neshama d'Israël, dit le Rav Kook, c'est Tzedek HaMuchlat. L'identité d'Israël, c'est la justice absolue. L'homme d'Israël, c'est le juste absolu. Et ceci est clair au niveau de l'échelle collective. S'il y a échec, il y a donc échec au niveau du cas particulier de l'individu. C'est, je crois, cette catégorie qui peut nous permettre de résoudre toutes ces difficultés du problème de la relation entre l'identité humaine et la révélation de la loi. Pour revenir sur ce premier point, le seul fait que la loi s'adresse à Israël implique une promesse qu'Israël sera capable de la réaliser. Et ceci, en tout cas, est clair et irréversible à l'échelle de l'identité collective. C'est le premier point. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse sur cet aperçu. C'est que dans le jugement d'Elohim par rapport à Israël, dans l'évaluation de ce lien entre une certaine identité, disons nationale, Israël, et puis la loi morale absolue, telle que finalement toutes les consciences la reconnaissent comme étant uniquement Israël, je veux dire que si on analyse toutes les conceptions de la moralité que l'on trouvera dans toutes les doctrines et chez toutes les nations, on s'aperçoit qu'en fin de compte, on se réfère toujours au commandement de la loi de Moïse. Nous avons appris hier comment une des stratégies de l'antisémitisme global contre Israël a essayé de dépersonnaliser la loi de Moïse, de dépersonnaliser cette révélation de la Torah absolue pour la dégager de son identité proprement juive et proprement judéenne. Et nous savons très bien que toute la polémique chrétienne à ce sujet a été nourrie de ce principe, par le reproche fait à Israël de particulariser la loi morale à titre de l'identité juive. C'est bien clair. Et au fond, la réponse d'Israël doit être entendue déjà au niveau des événements, à l'origine même. Si Dieu s'adresse à cette manière d'être homme pour lui faire connaître le projet de la loi, c'est qu'il considère que seule cette manière d'être homme est capable de la loi. Mais que ceci n'est pas du tout à l'échelle d'un particularisme disqualifiant pour les autres nations, c'est à titre de l'humanité en général, que du sein de l'humanité en général, une certaine manière d'être homme, par spécialisation du travail, par division du travail, a été capable de la loi. Or, dans le jugement que l'égoïme porte sur Israël, il y a un malentendu. Encore une fois, c'est surtout dans la théologie chrétienne que nous trouvons cette argumentation, mais il me semble, si nous jetons un regard attentif sur les événements contemporains, qu'en fin de compte, comme hier soir les Grecs à l'échelle de l'humanité tout entière, les chrétiens ont porté cette contestation contre la réussite de la moralité en Israël à l'échelle de l'humanité tout entière aussi. Je veux dire que, d'une autre manière, il faut bien prendre conscience que le seul peuple qui est jugé au nom de la morale, c'est effectivement Israël. Lorsque, si on veut comprendre dans le fond, pas, ce caractère assez extraordinaire, assez étonnant, surprenant, invraisemblable, de cette contestation systématique contre Israël en particulier, c'est parce que dans le fond des choses, plus ou moins inconsciemment, les goyim se rendent compte que si, quelque part, le sort de la morale est en jeu, c'est bien en Israël. Israël est le seul à être jugé d'après les critères de la morale. Est-ce que c'est bien clair? Je pourrais d'ailleurs reprendre ça dans la discussion, mais je crois que c'est une remarque importante à faire. Or, à ce sujet, il y a un énorme malentendu. Parce que Israël est jugé comme s'il était une église, ou un ordre, ou une école philosophique, alors qu'Israël est un peuple. Et je crois que c'est là que le problème s'éclaire. Hein. Nous pouvons simultanément, en relisant les prophètes, et en relisant déjà dans le Pentateuque les imprécations de Moïse lui-même, dire deux choses, toutes les deux vraies, bien que apparemment contradictoires. La morale en Israël a réussi absolument, depuis toujours. Et il y a là un cas irréversible, depuis le temps des patriarches, au niveau d'Israël comme peuple, la morale a réussi sur terre. En quelque sorte, si vous voulez, pour reprendre la notion rédemptrice de l'application de la loi morale, tout se passe comme si l'humanité est sauvée dès que Israël existe, dans la mesure où le salut de l'humanité, c'est la réussite de la morale. Si le sens de l'histoire humaine, c'est la destinée des valeurs morales, alors dès qu'Israël existe, en tant que peuple qui a accepté la loi, qui a été capable de la loi, l'humanité est sauvée à l'échelle collective. À l'échelle individuelle, il y a évidemment tous les échecs possibles. Mais il faut rectifier le principe du jugement porté sur Israël de la manière suivante, se rendre compte qu'en tant que peuple, Israël a réussi par rapport à la moralité. S'il y a échec, c'est à l'échelle des individus. Et par conséquent, il n'y a pas de contradiction dans la parole des prophètes, lorsque les prophètes nous disent d'un côté qu'Israël est l'identité du juste, mais de l'autre côté, ils réservent, les prophètes, leurs imprécations et leurs condamnations, apparemment, qu'aux Juifs. L'interpellation des Juifs, enfin des Hébreux déjà, l'interpellation des Hébreux au nom de la moralité par les prophètes est énorme. Elle est énorme. Les prophètes ont su interpeller ce peuple d'une manière qu'aucun antisémite n'arrivera jamais à inventer. Si vous lisez attentivement ce que les prophètes disent d'Israël lorsqu'il y a échec de la moralité, c'est énorme. Oui, mais il faut se rendre compte que de deux choses. D'une part, que seuls nos prophètes ont le droit de nous interpeller. Et deuxièmement, c'est que cette interpellation n'est pas du tout, ne porte pas du tout sur l'essentiel de l'identité d'Israël. Israël est le peuple du salut, il est le peuple des sauveurs, il est le peuple sauvé à l'échelle collective. Et c'est irréversible. Mais à l'échelle individuelle, tous les échecs sont possibles. Et la fonction rédemptrice du légalisme porte sur la récupération des individus. Alors que l'identité collective, elle, est hors de question. Est-ce que c'est bien clair? Et ça m'a beaucoup frappé ces temps-ci, en reprenant toute cette littérature anti-pharisienne ou anti-légaliste, entre guillemets, puisque le mot est péjoratif dans la bouche des accusateurs. Voilà. Depuis l'Antiquité et jusqu'au temps contemporain, il n'y a qu'à lire les éditoriaux des journaux, et surtout ceux qui sont écrits par ces hommes de la bonne conscience morale théoriques, qui sont les hommes de gauche, lorsqu'ils parlent de la position d'Israël, tout se passe comme si, d'emblée, ils retrouvent le style des imprécations des prophètes d'Israël, avec la grande différence que les prophètes d'Israël n'étaient pas des hommes de gauche, mais étaient des prophètes d'Israël. Je ne sais pas si vous comprenez tout ce qu'implique cette différence. C'est énorme. Eh bien, c'est qu'au fond, il y a ce postulat, qui a été le postulat implicite de la critique du christianisme par rapport au judaïsme, c'est qu'on juge le peuple d'Israël comme si c'était, je ne sais pas quoi, l'ordre des jésuites ou l'ordre des franciscains, il faudrait dire une église, enfin on dirait aussi une synagogue. Israël n'est pas une synagogue, Israël est un peuple avec des synagogues. Et vous voyez d'où vient l'erreur de jugement. Est-ce que c'est bien clair? Et ça pourrait d'ailleurs être éclairé par un texte que j'ai souvent cité, et qui se trouve dans la Gemara de Brachot au sujet de la faute du veau. au moment de la faute du Vaudor, c'est-à-dire immédiatement après la révélation de la loi, lorsque Israël tombe dans le principe même de la faute par rapport à la loi révélée par le Dieu unique, lorsque Israël tombe dans la faute de l'idolâtrie, alors Dieu, c'est une analyse que vous connaissez certainement, mais qui prend sa place ici, Dieu dit à Moïse, bon, ce peuple est irrécupérable, je vais l'annuler, et de toi, je ferai sortir un grand peuple. Et Moïse répond, souviens-toi de la promesse que tu as faite à Abraham, Isaac et Jacob, etc. Alors, la Gemara reprend ce dialogue, c'est un dialogue extrêmement émouvant, parce que Dieu dit à Moïse, ton peuple a fauté, je vais l'annuler, mais Moïse répond, sauf ton peuple. Je n'entrerai pas dans toutes les implications de détails qu'il y a dans ce dialogue, mais simplement le principe qui nous occupe maintenant. Le Midrash dit ceci. Une des argumentations de Moïse a été, sous la forme imagée du Midrash, l'argumentation suivante. Ce peuple a eu trois piliers du point de vue de l'incarnation des vertus. Les trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Et Moïse dit à Dieu, si une table qui a trois pieds ne peut pas tenir debout, alors, à plus forte raison, une table qui n'aurait qu'un pied ne tiendrait pas debout. Marquez, on n'a jamais vu une table à trois pieds tenir debout, ni une table à un pied d'ailleurs, sauf peut-être dans le style régent, j'allais dire Pompidou. Mais la logique de l'image, c'est que si déjà un peuple qui avait trois piliers du point de vue des vertus est tombé dans l'échec, le peuple issu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à plus forte raison, un peuple issu de Moïse seul,